Salut la gang, bienvenue à ce nouvel épisode de Femmes de fer. Aujourd'hui, je reçois la présidente du Y des femmes de Montréal, Mélanie Thivierge. On parle de l'impact de l'isolement social sur les femmes et les jeunes filles, mais on s'avoue également que personne n'est à l'abri de se retrouver dans une situation difficile durant notre vie. Alors, comment s'entraîner durant la crise, mais tout au long de notre vie? On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô, Mélanie!
Bonjour, Sophie!
Ça va bien?
Ça va pas mal, et toi?
Ça va pas mal, je pense que c'est pas mal comme ça qu'on peut, on peut se parler, on peut se répondre ces temps-ci. Ça va, c'est le nouveau normal, mais c'est pas encore normal, comme on peut dire.
Non, faut pas trop s'en demander, je pense.
Exactement. Écoute, Mélanie, je suis vraiment contente de te parler parce qu'on a essayé de se parler avant la crise.
Oui.
Bon, évidemment, la crise est arrivée, je pense, en plein milieu, qu'on était supposé de faire une entrevue, et donc chacun de notre côté, on est parti dans nos urgences à ce qu'on avait à faire chacun de notre côté. Et je veux quand même dire que c'est Joannie Pietracupa qui t'avait nommé pour
oui.
Parce qu'elle voulait que je te parle en tant que femme de fer que tu es. Et moi, je suis vraiment excitée de te parler parce que ça fait longtemps qu'on se suit et ça fait longtemps que je suis ce que tu fais. Et ça me touche vraiment, en fait, comme le travail que tu fais, je trouve ça tellement, je sais pas comment dire ça, tellement profond, super important. Et j'imagine, en fait, dans ma tête, je me dis que ça doit pas être une job facile, mais d'un autre côté, ça doit être très gratifiant. Bref, j'avais hâte de te parler justement parce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce que tu fais dans la vie. Et sans plus tarder, j'aimerais, Mélanie, que tu m'expliques un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Depuis la fin de l'année 2017, je suis la PDG du Y des femmes de Montréal. Le Y des femmes, c'est un organisme communautaire, c'est un organisme de soutien et d'accompagnement des femmes qui accomplit un paquet de choses. On a de très, très nombreux programmes, je pourrais t'en parler un petit peu plus longuement. C'est le plus ancien organisme communautaire pour les femmes à Montréal. On a célébré là, juste avant que tout s'écroule. Il y a quelques semaines, on célébrait notre 145e anniversaire. Donc,
wow.
c'est à chaque fois que je le dis, ça me donne un petit frisson. Puis là, depuis la fin de l'année 2017, et je suis arrivée là après un parcours de pas loin de 17-18 ans là, dans le monde des médias. Donc, c'est un virage là, que j'ai effectué il y a 2 ans et demi maintenant.
Pourquoi tu as décidé de faire ce virage-là?
Moi, j'ai été très, très privilégiée là, dans ma vie professionnelle. J'ai occupé plusieurs très beaux postes dans les grands médias, dans les magazines, d'abord chez Coup de pouce, chez Chatelain. Et ensuite, mes 5 dernières années dans ce milieu-là, je les ai passées à la presse pour le virage numérique à la Presse Plus. Donc, extrêmement choyée, plein de beaux projets et tout ça. Et j'avais de plus en plus présente à l'intérieur de moi une envie de m'engager, de m'investir, de trouver une forme d'engagement social. Et par la nature de mon poste comme directrice d'information, je pouvais pas m'impliquer, par exemple, en siégeant sur des conseils d'administration et tout ça, évidemment, pour préserver bon mon devoir de réserve et toute la notion d'objectivité journalistique. J'ai commencé à me questionner là dans les mois qui ont précédé mon changement en me disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire, moi, qui pourrait être mis à contribution dans la société. Puis, bon, les femmes, c'était un peu le fil conducteur de tout ça, les magazines féminins. Ensuite, à la presse, là, j'ai travaillé sur les sections lifestyle et tout ça. C'est comme ça que j'ai fait cette espèce de petit pas de côté qui m'a amenée à la direction générale du Y des femmes.
J'imagine que ça change quand même, d'une certaine façon, ta vie, parce que
oui.
On s'entend que le milieu des médias, c'est une certaine façon de fonctionner. On parle de marketing, de création de contenu, de production, des meetings, de comment se mettre de l'avant, aller chercher l'information, tandis que j'imagine que c'est un tout autre poste, une autre façon de voir la vie. Est-ce que je vais trop loin,
oui.
là?
Non, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, dans les premières semaines, les premiers mois après mon arrivée, j'étais vraiment, vraiment déstabilisée, voire déboussolée. On dirait que je savais que j'avais les compétences, là, les ressources à l'intérieur de moi pour faire ce travail-là, mais je savais pas comment m'organiser pour le faire. C'est comme si j'étais habituée depuis 5 ans en plus dans un quotidien, donc à un rythme de quotidien où chaque jour on doit prendre des décisions très, très rapides, on est toujours en mode réaction, réactivité, très aiguisée. Et là, il a fallu que je change comme complètement mon approche de mes semaines de travail, de mon organisation du temps, parce que là, je suis dans un marathon. En fait, je le dis là, sans arrêt, c'est toujours la meilleure image que je trouve. C'est comme si avant, je courais un sprint par jour. Et depuis que je suis arrivée au Y des femmes, je suis en mode marathon, voire ultra-marathon, parce qu'on travaille pour des changements sociaux, pour des changements dans la vie des femmes. Donc, ça se fait pas en claquant des doigts. Et ça demande une espèce d'engagement là, dans la durée. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffle. Donc, tu vas pas trop loin quand tu dis que c'est une façon complètement différente là, de repenser le travail puis l'organisation.
Avant, là, quand tu faisais tes sprints à tous les jours, tu savais que ton objectif allait être atteint. Est-ce que, ou en tout cas, il y avait une fin quelque part.
Oui.
Là, présentement, est-ce que tu la vois quand tu développes des projets au Y? Est-ce que tu les vois, ces fins-là? Ou comme tu dis, c'est un marathon sans fin où tu as toujours quelque chose finalement à aller plus loin puis à pousser plus loin. Est-ce que tu es capable de finir certains objectifs?
Ben, il a fallu que je réfléchisse beaucoup à ce qui donne du sens à une journée de travail ou à une semaine de travail. Tu sais, pour pas finir le vendredi, partir pour le week-end puis me dire « Mon Dieu, tu sais, j'ai rien accompli » parce qu'évidemment, il y a encore autant de femmes qui sont victimes de violences que quand je suis rentrée travailler lundi matin. Tu sais. Faut trouver d'autres formes de gratification ou d'autres types d'indicateurs pour mesurer son autosatisfaction par rapport à ce qu'on accomplit dans une semaine donnée. Par exemple, on a des programmes en employabilité des femmes. Et tous les 4 mois environ, il y a des graduations pour ces femmes-là qui accomplissent le programme. Puis j'essaie toujours de débloquer du temps dans mon agenda pour assister à ces graduations-là parce que c'est un tout petit groupe. Hein. Souvent, il y a 8, 10, 12 femmes. Mais pour chacune d'elles, de façon individuelle, c'est immense ce qu'elles viennent d'accomplir. Et elles repartent à la fin de leur parcours plus fortes, plus confiantes, avec plus d'outils dans leur coffre à outils. Et puis ça devient autant de vies qui peuvent être transformées. Ensuite, on peut penser à leurs enfants qui vont en bénéficier. Donc, il faut savoir trouver des espèces de petits indicateurs de fierté ou de reconnaissance d'une autre façon complètement, là.
Oui. Parlons-en justement de la mission du Y, parce que quand je vais sur le site Internet puis je regarde tous les projets que vous avez, il y en a beaucoup sur tes épaules. Est-ce qu'il y a une mission en particulier du Y qui, après, se décline en plusieurs projets?
Exactement. En fait, la mission, de façon générale, on dit que ce qu'on veut faire, c'est bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, et donc leur famille, par ricochet. Et on le décline autour de 3 enjeux principaux. Donc, on travaille autour de l'enjeu de l'égalité, de l'inclusion sociale et de la prévention des violences. Et ensuite, tous les programmes qu'on peut voir, là, donc quand tu es allé voir sur notre site, on a des services résidentiels, donc on héberge des femmes en difficulté, des services d'employabilité dont je viens de te parler, on a une clinique d'information juridique, on est présent dans les écoles secondaires en prévention pour les jeunes. On s'adapte, mais depuis le jour 1, on offre de l'hébergement. Ça, c'est vraiment au cœur de la mission de toutes les Y des femmes à travers le monde. Et de l'employabilité aussi, là, ça s'appelait pas l'employabilité, évidemment, en 1890, mais il y avait déjà une notion de formation des femmes pour les mener à un peu plus d'inclusion sociale et d'égalité. Donc, c'est très vaste, ce programme.
Oui. Quel type de femme va se retrouver à cogner à la porte du Y?
En fait, c'est probablement une de mes plus grandes leçons, ou en tout cas un de mes apprentissages les plus importants des dernières années, c'est que c'est très difficile de dresser un portrait type. C'est normal, on aime ça, pouvoir comprendre qui sont les gens à qui on va venir en aide là, dans une société donnée, mais j'ai pu me rendre compte que les difficultés qui se dressent sur un parcours, elles sont vraiment variées et c'est pas évident de cartographier tout ça. C'est sûr que, comme nous, on est en plein cœur du centre-ville de Montréal, on a un grand nombre de femmes qui sont issues de l'immigration, mais en ce sens-là, on est représentatif de la population montréalaise. On a peut-être selon les programmes, là, entre 50 et 65 % de femmes issues de l'immigration. Donc, pour ces femmes-là, ça peut être un parcours migratoire qui a été finalement beaucoup plus complexe et ardu que ce qui avait été prévu, ou des femmes qui arrivent puis que finalement, mais le conjoint avec qui elles ont entrepris le projet d'immigrer, dans le fond, elles se rendent compte ici qu'elles sont victimes de violence, puis là, c'est comme elles sont confrontées à des situations difficiles. Mais ça peut être aussi des femmes qui vivent un épisode qui se déclenche à l'âge adulte, des troubles de santé mentale, par exemple. Puis pour toutes ces raisons-là, vont se retrouver finalement à pas être capable de... pas être en mesure de maintenir un emploi stable ou de finalement payer leur loyer à la fin du mois. On a même accueilli dans notre résidence il y a quelque temps une femme qui était une proche aidante pour sa mère aînée. On pense pas de prime abord que prendre soin d'un proche va nous mener dans une situation de précarité, mais c'est quelqu'un qui a dû peu à peu réduire ses heures au travail, qui a fini par perdre son emploi, qui est allé vivre avec la personne aidée. Et la journée où cette personne-là est décédée, ben la dame avait plus de maison, elle vivait plus chez elle, l'appartement était repris, elle avait aucun droit sur ce logement-là. Donc il y a toute une spirale qui s'est mise à tourner vite, puis elle a fini par cogner à la porte du Y des femmes. Donc il y a vraiment toutes sortes de situations auxquelles on pense pas nécessairement.
Moi, j'entends dans tout ce que tu me dis, j'ai juste le mot fragilité en tête, et on sait, en fait, tout le monde peut être fragile à un moment donné dans sa vie. Oui. Et je me dis, en ce moment, avec la crise là, qui se passe, t'sais, bon, tout le monde est confiné, tout le monde est à la maison, tout le monde vit des situations qui n'étaient pas nécessairement confrontées à ce genre de situation-là à tous les jours. T'sais, juste moi, de mon côté, j'étais avec mon conjoint 24 heures sur 24, avec mon petit bonhomme. On se trouve un horaire, puis on est capable de se parler, puis on vit ça intensément, et comme tout le monde un peu vit ce qui se passe dans sa vie de façon intense. Mais quand j'entends la mission du Y et cette fragilité-là des femmes, en ce moment, comment faites-vous pour rejoindre ces femmes-là fragiles qui se retrouvent confinées comme tout le monde et qui se pensent peut-être pas fragiles non plus, là. Il y en a peut-être qui se déclarent également plus en ce moment.
Ben en fait, là, on est un peu en train de... On n'a pas encore pris la mesure de ce qui est en train de se passer. On est dedans. Ça va prendre un certain temps, là, quelques semaines, quelques mois peut-être même avant de prendre la mesure de l'onde de choc, là, tu sais, c'est quelque chose d'immense qu'on est en train de vivre collectivement, mais déjà on voit poindre là certains indicateurs, notamment en lien avec la violence conjugale. C'est certain qu'une femme qui était déjà dans une situation, une relation toxique, violente, et qui là se retrouve enfermée entre quatre murs avec quelqu'un qui a peut-être perdu son emploi, qui vit en un stress financier qui s'ajoute déjà à une relation qui était violente et malsaine. On voit là, les indicateurs au niveau, entre autres, de la situation des violences qui pointent vers le haut. Du côté de la clientèle, nous, on est comme en adaptation présentement parce que la situation, bon, comme pour tout le monde, hein, ça s'est passé vite tout ça. Donc, pratiquement du jour au lendemain, là, il y a certains services qu'on a dû suspendre pour toutes sortes de raisons financières et autres. Il y a aussi des services qui sont plus difficiles de maintenir à distance. Ce que tu décris, c'est très, très vrai. Ça va révéler, cet épisode-là va révéler certaines vulnérabilités. Et pas nécessairement chez les gens qu'on aurait pensé, hein. C'est comme les pertes d'emploi, ça se fait sentir dans tous les milieux. On n'est vraiment pas tous égaux face à cet épisode de confinement-là. Tu le dis, tu es avec ton conjoint, ton petit bonhomme, vous avez la chance de pouvoir vivre ça ensemble, de vous soutenir, même si c'est pas tous les jours facile pour personne, là. Mais pour certaines personnes, c'est soit être complètement seule, c'est soit être dans une relation malsaine, c'est soit vivre avec un stress financier pas possible, dans des appartements parfois qui sont où c'est pas agréable là de vivre. Donc on en a pour un bon bout de temps et je m'attends à ce que graduellement là la clientèle se peut-être pas se transforme en profondeur là, mais se diversifie encore plus puis qu'on puisse soutenir des femmes qui vont avoir traversé des épisodes difficiles. Et quand on regarde les chiffres de personnes qui sont en train de faire des demandes d'aide là avec le programme d'urgence ou dans les différents programmes de soutien qui sont mis en place, là-dedans là, il y a pas mal de monde pour qui c'était pas du tout dans leur plan de vie là, tu sais, qui se voyaient pas du tout se retrouver dans cette situation là. Il y en a peut-être qui ont des paiements, tu sais, très très élevés, ça va bousculer beaucoup de gens, tout ça. Puis comment on fait pour rejoindre ces femmes-là? Tu sais, c'est une grande obsession. J'avais eu une conversation il y a quelque temps avec une collègue de YWCA à Halifax, puis elle disait, tu sais, il faut être obsédé par les femmes qui ne viennent pas cogner à notre porte, tu sais, puis qui auraient besoin de nos services. Tu sais, comment on fait? Et présentement, je pense que moi, si j'avais en tout cas tu sais, un message ou quelque chose que j'aurais envie d'articuler par rapport à ça, c'est d'aller au-delà de nos idées préconçues par rapport à qui sont les personnes qui vont demander du soutien à des organismes communautaires. Arrêter d'imaginer là le portrait là d'une femme itinérante qui a plus rien, qui a pas mangé depuis des semaines, puis qui dort sur des bancs de parc. T'sais, ces femmes-là existent, mais c'était déjà pas la majorité de notre clientèle. Et ça ne sera pas plus demain matin. Il y a cette vulnérabilité-là. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont à une ou deux mauvaises décisions dans leur vie, tu sais, de basculer. Et je pense que ce qu'on peut faire collectivement, c'est de contribuer à déstigmatiser la notion d'avoir besoin d'aide ou d'avoir besoin de soutien ou d'aller cogner à la porte ou d'avoir recours à un service de, ça peut être une ligne d'écoute téléphonique, ça peut être un paquet de choses, mais de pas imaginer que tous les organismes communautaires à Montréal, au Québec, existent là, seulement pour une frange extrêmement démunie de la société.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. Une des choses, moi, que j'ai vues énormément au début de la crise, c'est les jeunes qui avaient besoin de parler et se retrouvaient vraiment à se dire, il faut que j'aille voir tel jeune, mais j'aimerais ça leur parler à 2h du matin, je peux pas. Est-ce que, parce que bon, je sais pas si bon présentement sont en train de changer les choses et tout ça, parce qu'il y a un besoin immense, mais on peut pas sortir, donc tout se fait en ligne maintenant. Est-ce que le why, vous pensez à ce genre de développement-là? Avez-vous une réflexion avec le en ligne, avec la façon de communiquer avec les gens de cette façon?
Bien, en fait, je te dirais que, comme plusieurs personnes, je pense que c'est Sophie Brochu qui disait ça à Tout le monde en parle il y a quelques jours. Là, on vient de faire comme par la force des choses, on vient de faire un bond de technologique de 10 ans en 4 semaines. Là. Donc, il y a des choses qu'on avait sur notre table de travail et qu'on n'était pas rendu là. La situation a comme forcé, disons, l'adoption de certaines habitudes. Donc, du côté d'employabilité, entre autres, je te parlais de certains de nos programmes. Il y en a un certain nombre qu'on a suspendu parce qu'ils étaient basés sur un modèle de groupe, de cohorte, mais on en a transformé un autre où on fait que de la consultation téléphonique avec les femmes, des entretiens individuels, du counseling à distance, tout ça s'est mis en place dans le temps de le dire. On fait la même chose dans notre groupe de soutien pour les proches aidants d'aînés, justement, qui vivent une situation particulière, hein, parce qu'on entend beaucoup parler des personnes de 70 ans et plus et tout ça, puis de ce qu'on leur demande là, présentement. Donc ça aussi, cette équipe-là s'est mobilisée, puis on a mis ça en place de façon très rapide. On le fait avec même notre clinique d'information juridique présentement. Les avocates bénévoles qui travaillent avec nous ont presque toutes accepté là, de maintenir un certain nombre d'heures bénévoles dans le contexte. Et on est capable de donner de l'information juridique de façon en utilisant les technologies présentement.
On voit beaucoup passer des messages justement au fait que la crise n'est pas égale autant au niveau des femmes que des hommes, que les femmes se retrouvent vraiment dans une position de fragilité. C'est ce qu'on parle depuis tantôt. Tu le vois, cette inégalité encore là entre les hommes et les femmes durant cette crise?
Bien, en fait, c'est que pour pouvoir répondre à ça, il faut se ramener aux inégalités qui perdurent même en situation où tout va bien. T'sais. Avant que la crise nous frappe, là, il y avait encore aujourd'hui au Québec, à Montréal, des inégalités profondes, par exemple, dans les revenus d'emploi. Même si, oui, il y a plus de femmes médecins puis ingénieurs qu'il y en avait avant, le revenu moyen des femmes est encore plus bas que celui des hommes. Et ça, c'est encore plus accentué chez les femmes immigrantes, par exemple. Les victimes de violence, à large majorité des femmes. La violence chez les adolescents, ça commence très jeune. Des relations amoureuses qui sont pas amoureuses, finalement, mais qui sont des relations violentes ou de domination ou de manipulation. Donc, si on se dit que même quand tout va bien, entre guillemets, dans la société, les inégalités perdurent encore et que le simple fait d'être une femme, c'est un facteur de risque à plusieurs égards, dans plusieurs types de situations, bien, c'est certain que quand on ajoute tout le stress dont on parle depuis tantôt, toute l'inquiétude qui est provoquée par le fait de pas savoir, là, présentement, on est tous un peu là-dedans, tu sais, qu'est-ce qui va arriver, les inégalités qui étaient encore fortement présentes vont avoir été accentuées. Les emplois qu'on est obligé de maintenir, bon, le domaine de la santé, c'est une chose, mais quand on pense aux caissières dans les épiceries présentement, c'est beaucoup, beaucoup des femmes. C'est pas des gros salaires, on le sait. Ces femmes-là, ben, elles ont des enfants aussi qui fréquentent des garderies ou des écoles qui sont fermées. Elles vivent un stress si elles rentrent pas travailler parce qu'elles ne peuvent pas. Si c'est un refus, elles n'auront pas le droit aux prestations d'urgence. Donc, elles doivent trouver des solutions. Donc, elles vont peut-être prendre plus de risques pour leur santé, par exemple. Mmh. Elles vont peut-être devoir diminuer leurs heures jusqu'au strict minimum, puis se retrouver avec des plus petits chèques de paye. Donc, il y a beaucoup de ces postes-là qui sont maintenus, qui sont essentiels, on le constate. Hein? On en parle beaucoup depuis quelques semaines, qui sont comme porté à bout de bras par des femmes, puis pas dans des conditions exceptionnelles. Donc, ça va... Les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, les résidences, on en parle aussi. C'est des foyers de contamination. La forte majorité des employés là-dedans, ce sont des femmes avec des salaires franchement discutables. Là, il y a une augmentation qui a été annoncée il y a quelques jours, mais n'en demeure pas moins que ça demeure des emplois relativement précaires. Là. Donc, il y a un facteur de stress là qui est vraiment à ne pas négliger.
Donc, plusieurs services essentiels, moi, je le voyais même pas comme ça, mais il y a énormément de femmes qui sont mises à contribution présentement et qu'il faut les appuyer à 100% là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, moi à la maison, là, qu'est-ce que je peux faire pour aider ou prévenir, que ce soit au niveau de la violence conjugale, des voisins peut-être que je ne connais pas, que je ne sais pas. Qu'est-ce que j'essaie toujours de voir, là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne, pour aider le mieux ce genre de situation-là? Qu'est-ce que vous avez besoin, Juan?
Ben, en fait, la première chose, c'est toujours, ça passe, tu sais, t'es une journaliste aussi, Sophie, ça passe par la prise de conscience puis la connaissance. Donc, d'abord reconnaître que les inégalités perdurent, de se faire porte-parole de ça auprès de notre entourage, tu sais, que les gens faire en sorte que les gens reconnaissent ces inégalités-là, parce que c'est
pas toujours facile, je dois t'avouer. Excuse-moi, je ne veux pas couper ta parole, mais c'est vraiment pas facile, parce que dépendamment dans quel milieu on est, quand moi je vais prendre la parole face à ces inégalités-là, parfois autour de nous, on les ressent moins. On n'est pas dans peut-être dans une place où la communauté autour de nous, on la voit vraiment au grand jour, là. Donc, plusieurs personnes vont me répondre, ben voyons, mais non, c'est plus comme ça à Montréal, ou c'est bien mieux maintenant. Puis donc, parfois, j'ai l'impression que ce sentiment-là se fait moins voir quand on n'est pas intéressé par le sujet. Et quand on essaie d'en parler, puis justement de faire comme non, ça existe, c'est pas facile de porter cette parole.
T'as tout à fait raison. Puis moi, je dis souvent que notre plus grand défi au Québec ou au Canada, c'est de penser collectivement que l'égalité est atteinte. Tant qu'on va être pris avec cette conception-là, ça devient ça rend ça encore plus ardu de faire des avancées ou d'améliorer certaines situations. Puis quand je dis qu'il reste beaucoup de travail à faire, puis qu'il y a plusieurs inégalités qui subsistent, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas progressé. T'sais, c'est ça qui, je pense que c'est important que les gens comprennent aussi. Il y a une nuance. T'sais, est-ce que c'est mieux d'être une femme à Montréal en 2020 que qu'en Inde? Oui, bien sûr. T'sais, puis est-ce que c'est mieux
même aux États-Unis dans certains États?
Ou que même aux États-Unis, effectivement. Oui, est-ce que c'est mieux aujourd'hui qu'en 84 ou qu'en 62? Bien sûr. T'sais.
Oui.
Mais présentement, au Québec, à Montréal, l'âge moyen du recrutement des jeunes filles à des fins d'exploitation sexuelle, c'est 14,7 ans. On recrute des filles dans les cours d'école à la fin du primaire et au début du secondaire. Et l'exploitation sexuelle, ça a remplacé le commerce de la drogue sur le marché noir, parce que c'est plus difficile de se faire pincer parce qu'on agit comme si c'était notre blonde, entre guillemets. Il y a moins de risques pour les exploiteurs de faire le commerce d'une jeune fille adolescente que de faire le commerce de la drogue. Tu sais, c'est des choses qui se passent à Montréal présentement. Donc, il y en a plusieurs des faits pour appuyer tout ça. Puis parfois, il faut être un peu raide. avec des données comme ça, souvent les gens font comme « Oh, OK. »
Ouais, ben là, je viens de tomber un petit peu en bas de ma chaise.
C'est ça.
Mon Dieu, il y a de la frustration, il y a de la colère en moi qui vient de monter énormément.
J'ai fait exprès, là.
Oui. Bon. Et dans ce cas-là, comment on fait pour protéger nos filles?
Ben en fait, il faut protéger les filles, puis il faut éduquer les garçons. T'sais, c'est ça aussi, c'est un projet de société. Nous, quand on fait des ateliers dans les écoles secondaires, parfois on sépare les filles et les garçons, mais on s'assure toujours que l'information, elle est transmise autant aux filles qu'aux gars. T'sais, on veut pas juste envoyer le message aux filles que c'est à elles de se protéger puis de faire attention, puis si jamais elle se retrouve dans une situation comme celle-là, c'est parce qu'elle a été naïve ou elle a pas été prudente et tout.
Parce que c'est toujours ce message-là qu'on fait. Moi, ce qui me fascine quand je lis sur ce sujet-là, c'est OK, les filles, voici comment te protéger, tatata. Il y a même eu une étude dans une école où la professeure demandait, bon, ben vous, comment, quand est-ce que vous vous êtes senties en danger? Et les filles étaient toutes capables de dire, ben moi, c'était hier, c'était avant-hier, c'était quand je me promenais sur la rue. Nous, avant même, moi, quand j'habitais pas à Montréal, quand j'étais jeune, juste m'en venir à Montréal, c'était « Oh my God, j'ai besoin d'une alarme sur moi, j'ai besoin d'un pepper spray, j'ai besoin de tout. » Ça faisait partie, c'était un réflexe pour moi de « Je vais revenir tard de mes cours, je sais pas. » Tu sais, de l'inconnu, évidemment, pour une fille, tout de suite, ça fait peur. Tandis que quand l'étude a été faite, quoi, les gars faisaient « Ben, je sais pas, jamais. » Pour eux, ça fait même pas partie de leur tête. Et ça, je peux comprendre, mais de l'autre côté, moi, j'ai un petit gars, donc pour moi, c'est ça vient vraiment me chercher, parce que moi, je veux m'assurer de passer tellement le bon message pour qu'il non seulement se rende compte que ça existe, mais qu'il est en position d'aider les filles.
C'est ça.
Dans ce passage-là, de dire, moi, mon ami, ma cousine, ma mère ressentent ces choses-là, et moi, en tant que gars, je peux les appuyer là-dedans.
Oui, et je ne veux pas y contribuer d'aucune façon, ne serait-ce que par des remarques pour rire, des petites réflexions qu'on pense banales, mais qui finalement, en les accumulant les unes par-dessus les autres, bien, à un moment donné, ça crée un climat de tension qui est inutile ou d'inquiétude. Donc, c'est très large, hein, c'est vaste. Oui. C'est pour ça qu'au début, je te disais qu'on peut pas mesurer nos succès à la petite semaine quand on fait ce travail-là. Oui. Parce que c'est vraiment des changements en profondeur. Collectivement, on a ce travail-là à faire en tant que parents. Tu sais, là, c'est beaucoup des femmes qui sont à l'écoute de ton podcast, mais les gars, évidemment, sont plus que qu'invités, sont nécessaires à cette réflexion-là, tous les hommes. Oui. Qui se disent comme non, moi je veux pas contribuer à ça, tu sais, c'est comme j'embarque pas là-dedans, de pas avoir peur de nommer les choses telles qu'elles sont, puis de reconnaître, puis d'écouter quand une femme dit non, mais attends, écoute là, tu sais, à Montréal là, parmi les femmes qui travaillent là, il y en a encore un très grand pourcentage qui font en bas de 25 000 $ par année, tu sais. Fait que oui, les femmes sont au travail, mais à quel prix souvent, donc de pas nécessairement chercher à venir comme contrecarrer ce discours-là puis à l'écouter jusqu'au bout. Tu sais, je pense que ça, c'est une première étape pour qu'on puisse mieux se comprendre, tout le monde ensemble, d'une part. Oui. Puis ensuite, tu me demandais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Tu sais, c'est sûr que moi, je dis souvent, tu sais, je pense que c'est sûr que c'est difficile de parler de la réalité des organismes communautaires sans parler de leur réalité financière. Là. Oui. On fait vraiment des miracles avec trois bouts de chandelle. Présentement, nous, on vient en raison de la crise, là, on vient de perdre 100% de nos revenus autonomes. C'est-à-dire que j'ai des revenus liés à des subventions gouvernementales. Ça, évidemment, c'est maintenu, mais on opère, nous, un hôtel en mode économie sociale, puis c'est ça qui nous permet d'investir dans notre mission. Puis ben évidemment, le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est pas mal au point mort. Donc, on vient de perdre complètement notre source d'autofinancement. Donc, ça nous affecte et ça va nous affecter pendant une longue période parce que ça va pas reprendre demain matin. Donc, parfois, c'est d'adopter un organisme. Je vais parler pour le mien, mais il y en a plein d'autres qui font du super travail, d'adopter un organisme. Puis si on a la chance, on est tombé du côté des privilégiés où on n'a pas à s'inquiéter de comment on va se payer notre prochaine épicerie ou notre prochain paiement d'hypothèque, peut-être d'être capable de rentrer ça dans nos dépenses régulières. T'sais.
Dis-moi, qu'est-ce que tu veux développer là, absolument prochainement? Évidemment, la crise a amené quelque chose qui a tout bouleversé, là, mais ça serait quoi là, ton plus grand projet là?
Ben en fait, tu as raison de dire que la crise a bouleversé beaucoup de choses. Puis on s'est dit avec l'équipe de direction là, que probablement au cours des 2-3 prochaines semaines, là, on va vraiment réfléchir à comment on réaligne là, notre planification de la prochaine année, parce qu'il y a plein de choses qu'on a dû suspendre puis qu'on pourra pas réactiver avant un bout. Donc de façon très très terre à terre, je vais te dire, c'est assurer la pérennité financière, parce que la situation que je viens de te nommer, il y a vraiment des enjeux réels là, pour la suite des choses. Donc, on veut s'assurer de remettre les finances à flot, puis de faire en sorte que dès que la situation de santé publique va le permettre, on va pouvoir relancer l'activité économique autour de notre hôtel. Fait que je souhaite que les activités, les déplacements puissent reprendre, puis faire en sorte que cet hôtel-là, au centre-ville de Montréal, soit vite ramené à l'esprit des gens là, comme une destination qui fait une différence.
Ouais. Est-ce que le gouvernement vous écoute là présentement? Dans le sens que, parce que moi, ça m'avait frappé lors d'une conférence de presse, monsieur Legault a quand même parlé de ce sujet-là spécifique, de la violence envers les femmes et des enfants. Et il me semblait tout d'un coup, c'est une des premières fois que je l'ai vu ému face à ce sujet-là. Alors pour moi, on dirait que tu me dises que vous êtes en difficulté financière, on dirait que je suis comme un peu surprise parce que j'avais l'impression que pour le gouvernement, c'était quelque chose d'ultra important.
Oui, ben en fait, tu as raison. Puis c'est sûr que ça a été une belle surprise pour nous aussi là, d'entendre ce discours-là de la part du gouvernement. Je vais faire en quelques minutes, là, vraiment, là, je te promets de faire ça rapide, une petite vulgarisation sur le financement des organismes communautaires, comment ça fonctionne. Le gouvernement subventionne beaucoup de projets au sein des organismes, c'est-à-dire des projets avec une date de début et une date de fin, avec un objectif spécifique. Oui. Par exemple, on reçoit de l'argent de différentes agences gouvernementales ou différents ministères pour réaliser le projet X, Y, Z. Là, pour ça, j'ai une somme d'argent, j'embauche les bonnes équipes, les bonnes personnes, puis on se mobilise, puis on déploie le projet, puis à la fin, on remet des rapports. Donc ça, ça va bien, puis tous nos projets présentement, en tout cas la très grande majorité, on a reçu le feu vert de la part des bailleurs de fonds. Continuez, même si vous pouvez pas réaliser les projets, par exemple ce qu'on fait dans les écoles sont fermées, c'est pas grave, on comprend, puis on va en tenir compte dans la reddition de comptes. Faites-vous-en pas avec ça, on va pas vous demander de nous retourner des sommes d'argent. Fait que de ce côté-là, effectivement, il y a de l'écoute. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est qu'il y a très, très peu de sommes d'argent qui sont attribuées à la mission globale des organismes. Et ça, la mission globale, souvent les gens, ils aiment pas ça nécessairement donner pour la mission parce qu'ils aiment ça sentir que le don ou la subvention va permettre de payer le salaire d'une intervenante qui va écouter tant de femmes par année, par exemple, de façon très spécifique. Mais la mission globale, là, c'est ce qui permet d'avoir une bâtisse où réaliser tes activités. C'est ce qui permet d'acheter du mobilier pour ton monde, de faire en sorte que tu peux te payer de la technologie, hein, on en a parlé tantôt, à peu près décente pour que les gens fonctionnent. C'est ce qui permet d'avoir une comptable qui fait des chèques de paye à la fin de la semaine, des agents de communication qui vont faire connaître tes programmes, parce que tu auras beau faire des programmes exceptionnels, mais si tu n'arrives pas à rejoindre tes publics, c'est souvent des coups d'épée dans l'eau. Donc, tout ça là, qui est comme en périphérie du cœur du programme, ça, c'est la partie la plus difficile à faire financer. Même en temps normal, il y a peu d'argent disponible pour la mission des organismes. Il y a beaucoup d'argent pour des programmes spécifiques. Et il faut pas aussi oublier que les travailleuses, puis je le dis vraiment au féminin, hein, parce que le milieu communautaire là, est porté en grande majorité par des femmes, les travailleuses du milieu communautaire là, gagnent vraiment des petits salaires.
Mais si les gens nous écoutent et ont le goût d'être bénévoles, est-ce qu'ils peuvent présentement participer?
Ben, en fait, je pense que présentement, la meilleure façon, là, si c'est quelqu'un qui a envie d'aider pendant la période de la crise, le site que le gouvernement a mis en place, là, jebénévole.ca, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ensuite, une fois que les activités normales auront reprises, ben là, c'est sûr qu'on a toutes sortes de besoins de bénévoles, souvent liés même à de l'expertise. Tantôt, j'ai mentionné rapidement des avocates bénévoles. On a une clinique d'information juridique, donc on a des professionnels du droit qui nous donnent chaque mois un certain nombre d'heures.
En terminant, Mélanie, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, et c'est un sujet infini, on se reprendra une autre entrevue éventuellement. Je veux savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « femme de fer » ?
Ah, je l'aime beaucoup, hein, ton titre de podcast. Je pense que je te l'avais pas dit, mais quand j'ai découvert, j'ai vraiment trouvé que c'était c'est très puissant. En fait, en français, on n'a pas réussi à trouver de véritable belle traduction pour empowerment. Oui. puis quand j'ai entendu femme de fer la première fois, ça m'a donné une impression de puissance. Ça fait appel, ça fait résonner en fait la notion de puissance, de la solidarité des femmes entre elles, des liens forts qui se tissent dans une communauté de femmes. Tu me disais, c'est Joannie qui m'a donné ton nom. Tu sais, je trouve ça le fun. Il y a comme on se donne une espèce de high five virtuel, là, toutes les femmes entre nous avec ça. Je trouve que le titre de ton podcast, il évoque ça. Je trouve ça très, très beau.
Ben moi, je veux juste dire que ce que tu fais au Y et toute ton équipe, ce qu'elle fait au Y donne une puissance à tellement de femmes ici à Montréal depuis des nombreuses années, mon Dieu, 140 ans. On a besoin, mais on veut que ça continue. Merci beaucoup, 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 Mélanie. La meilleure façon de te contacter, c'est comment?
Je suis très active sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment simple de me retrouver. Je réponds à tous les messages que je reçois. J'adore ça.
Génial. Sinon, ben, on va évidemment voir le site du Y des femmes de Montréal. Oui. Et vous allez voir toutes les activités, tous les programmes. Si vous êtes généreux, vous avez un petit peu d'argent de côté, donnez généreusement.
Merci beaucoup, Sophie. Ça a été un plaisir de pouvoir jaser tout ça avec toi. Puis, merci pour ce que tu fais.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.